Maxime Gorki, Les Vagabonds, Grand-père Arkhip et Lonka. Étendus tous deux à l'ombre au bord du fleuve, ils attendaient le radeau. Depuis longtemps, en silence, ils regardaient bouillonner à leurs pieds les vagues rapides et vaseuses du Kouban. Lonka sommeillait, tandis qu'Arkhip, le grand-père, cherchait vainement à s'endormir. À tel point était aiguë et persistante la souffrance qui lui déchirait la poitrine. Se détachant de la masse brune de la terre, leur face apparaissait deux choses lamentables, pitoyables et grimaçantes, l'une plus grande, l'autre plus petite, mais un même hâle de poussière souillait leur visage, et sous les meurtrissures de la fatigue et de la chaleur, ces figures humaines avaient revêtu une teinte semblable à celle des guenilles dans lesquelles ils se drapaient. Maigre et long, le grand-père Arkhip s'était allongé sur l'étroite bande sablonneuse qui courait le long de la berge, comme un ruban rougeâtre entre le fleuve et le talus. Lonka, petit et chétif, roulé en boule à ses côtés, dans ses vêtements en loques, évoquait près de son grand-père l'idée d'une branche rabougrie détachée d'un vieil arbre, que les flots puissants et froids auraient roulé dans leurs plis et abandonné sur le sable. Soulevant la tête appuyée sur son bras, le grand-père fixait la berge opposée, inondée de soleil et bordée de roseaux, entre lesquels apparaissait la ligne sombre du radeau. Tout semblait mélancolique et désolé. La route, ainsi qu'un ruban gris aboutissant au fleuve, se perdait dans les lointains de la steppe. Elle était si longue, si poussiéreuse, que le grand-père en concevait une inquiétude. Les yeux mornes et irrités du vieillard Arkhip clignotaient, pleins d'anxiété, sous leurs paupières rouges et tuméfiées. Une tristesse immense, presque une angoisse, se lisait sur sa face ridée. Il toussait. Avec un regard inquiet pour son fils, il porta la main à sa bouche. Sa toux était rauque, déchirante. Le grand-père dut se soulever. Des larmes roulèrent de ses yeux. L'immense silence de la steppe, flamboyante dans l'ardeur du soleil, n'était troublé que par cette toux et par le bruissement soyeux des flots. La plaine se prolongeait sur les deux rives du fleuve, très loin, et tout là-bas, à l'horizon à peine visible pour les regards fatigués du grand-père, ondulait lentement l'océan doré des blés mûrs, dans l'éblouissement lumineux du ciel clair. Non loin, trois peupliers érigeaient leurs silhouettes frêles et qui semblaient se modifier d'instant en instant, tantôt plus grandes, tantôt plus petites. Enfin, tout là-bas, le ciel et les champs de froment paraissaient se confondre en un large mouvement de houle. Puis, d'un seul coup, tout cela s'évanouissait, enseveli sous l'éclatant mirage de la steppe. On eût dit un voile transparent et clair, dont les ondulations seraient venues des confins de l'horizon jusqu'à la berge du fleuve. Il semblait lui-même un fleuve qui se serait subitement abaissé de la voûte du ciel, un fleuve aussi limpide que le ciel lui-même, et qui serait venu apporter un peu de fraîcheur à la steppe brûlante comme une fournaise. Puis, tout disparaissait bientôt. En présence de ce phénomène inconnu de lui, grand-père Arkhip, originaire de la Grande Russie et qui jamais au cours de sa jeunesse n'avait mis les pieds dans la steppe où la faim le conduisait aujourd'hui, grand-père Arkhip se frottait les yeux. Il songeait tristement que la chaleur de ce désert perdait sa vue après avoir détruit toute la vigueur de ses jambes, incapable de lui permettre, comme jadis au pays natal, des étapes de 30 verstes par jour. C'était à peine maintenant s'il en pouvait faire la moitié. Ce jour-là, plus encore que les jours précédents, il se sentait malade, épuisé. Il comprenait que la fin était proche, et bien que cette idée ne l'épouvantât pas, bien qu'il considérât la mort comme une fonction normale de la nature, il aurait souhaité mourir au pays qu'il avait vu naître, là-bas, dans le gouvernement d'Aurel. Puis, la pensée de son petit-fils le torturait beaucoup. Que deviendrait Lanka lorsque lui serait mort? Chaque fois qu'il se posait cette question, et cela lui arrivait plusieurs fois par jour, il sentait en lui quelque chose qui se serrait, tandis qu'un frisson lui passait dans tout le corps. Alors, il éprouvait un tel malaise, une souffrance si aiguë, qu'il eût voulu, sur le champ, retourner en Russie. Mais il se remémorait la Crimée, les steppes dévastées, les paysans brutaux et insolents, leurs chiens énormes et féroces, les Tartares grossiers et cupides, et aussi cette aventure qui lui était survenue à Taman et qui avait failli les faire mettre en prison, Lanka et lui. Retourner si loin, en Russie? Mais jamais il n'y parviendrait. La mort le surprendrait en chemin. Du moins, ici, au Kouban, on lui faisait généreusement l'aumône. Le peuple était railleur et rude, mais il était assez fortuné. On évitait de laisser les vagabonds mendier parce qu'on était riche. Ici, l'on trouverait peut-être quelque chose pour Lanka. L'enfant n'était pas plus orphelin ici que là-bas, au pays natal. Le grand-père, les yeux humides de larmes, regarda son petit-fils et de sa main calleuse lui caressa légèrement la tête. L'enfant releva vers le vieillard sa figure menue, au nez pointu, aux lèvres minces, anémiées, que la chaleur et le vent de la steppe avaient gercé profondément. Ses grands yeux, d'un bleu profond, où brillait une pensée perpétuelle, paraissaient plus larges encore dans sa petite face chétive et marquée de la petite vérole. « Vient-il ? » interrogea l'enfant. Il se couvrit les yeux de sa main pour mieux voir et fixa le fleuve où miroitait le soleil aveuglant. « Non, il ne bouge toujours pas, » se répondit-il à lui-même. « Il reste à la même place. Qu'est-ce qu'il viendrait faire ici ?»«
Personne ne le hèle. Il reste tranquille, » déclara doucement Arkhip, qui continuait à caresser la tête de son petit-fils.
« As-tu dormi un peu ?» Lanka eut un hochement vague de la tête et s'allongea sur le sable. Le silence se prolongea quelques instants. « Si je savais nager, j'aimerais me baigner, » dit Lanka, le regard fixé sur le fleuve. Sa voix était étrangement grave et monotone. « Le courant est trop rapide, il n'y en a pas de semblable chez nous. Pourquoi se dépêche-t-il de la sorte ? Il se hâte comme s'il craignait d'être en retard. »
Lanka se détourna de l'eau avec un air mécontent.
« Voilà ce que l'on pourrait faire, » répondit le grand-père après une minute de réflexion. « Retirons nos ceintures, attachons-les l'une à l'autre, je te tiendrai par la jambe et tu pourras ainsi t'aventurer dans le fleuve. »
« Penses-tu ? » repartit Lanka. « Il n'est pas bien bon ton moyen. Crois-tu que le fleuve, rapide comme il est, ne t'entraînerait pas ? Nous nous noierions tous les deux. »
« Là, tout près de la berge. Mais au fond, tu as peut-être raison. Il nous entraînerait. Quel courant ! Certainement, il débordera au printemps. Et il y en a des prairies ici, des plaines sans limite. » Mais Lanka en avait assez de parler. Il ne répondit pas à son grand-père. Il prit entre ses doigts une petite motte de terre, et, conservant son air habituel, sérieux et pensif, il réduisit en poussière cette boule argileuse. Clignant des yeux, perdu dans ses pensées, le grand-père le regardait agir. « C'est étrange, » reprit doucement Lanka de sa voix monotone, en secouant la poussière qui emplissait ses mains. J'ai saisi cette terre, je l'ai écrasée, et elle s'est convertie en une poussière dont on distingue à peine les morceaux minuscules.
« Eh bien, qu'y a-t-il en cela de si singulier ?» demanda Arkhip.
Il se mit à tousser, et à travers ses larmes, il regardait briller les grands yeux de l'enfant dans son minois chiffonné et maigriot.
« Pourquoi me parles-tu de cela ?
reprit-il quand sa toux fut calmée.
« Voilà, » dit Lanka en hochant la tête. « Je t'en parle parce que c'est tout à fait ce que je... »
De la main, il montra la rive opposée du fleuve. « Combien de maisons ont été construites là-dessus ? Que de villes nous avons traversées ensemble ! C'est stupéfiant ! Et il y a des hommes partout !»
Sa pensée lui échappait à lui-même. Lanka retomba dans sa méditation, les yeux fixes dans le vide. Après un instant de silence, le grand-père s'approcha de l'enfant, très près, et lui dit doucement
« Tu es un sage, et tu parles justement. Tout est poussière. Les villes, les hommes, nous deux, poussière.
Ah, mon Lanka bien-aimé, que ne sais-tu lire et écrire ? Tu eusses fait ton chemin. Tu as autant de raisonnement qu'un vieillard. Mon pinson, mon petit oiseau du bon Dieu, que vas-tu devenir ? »
Le grand-père, serrant contre lui la tête de son petit-fils, l'embrassa.
« Laisse ! » cria vivement Lanka en dégageant ses cheveux blonds comme le lin des doigts noueux et tremblants du grand-père. « Qu'est-ce que tu dis ? Tu prétends que les villes et tout ce qui les entoure ne sont que poussière ? »
« C'est Dieu qui a tout décidé ainsi, ma colombe. Tout est fait du limon de la terre, et la terre elle-même n'est autre chose que de la poussière. Tout meurt ici-bas, c'est ainsi. Aussi l'homme doit-il vivre dans le travail et la simplicité. Pour moi, je mourrai avant longtemps. Que vas-tu devenir ? » termina-t-il mélancoliquement.
Cette dernière phrase, Lanka l'entendait souvent. Elle l'importunait en le faisant penser à la mort. Il tourna la tête, arracha un brin d'herbe, le prit dans sa bouche et se mit à le mâcher sans hâte. Mais c'était le sujet de conversation favori du grand-père, la plaie toujours ouverte en son cœur.
« Pourquoi ne me réponds-tu pas ? » répéta-t-il avec douceur en s'inclinant vers l'enfant.
« Que feras-tu, moi disparu ?» « Mais je te l'ai déjà dit !» répondit Lanka d'un ton ennuyé et distrait, tout en jetant un regard oblique au vieillard. Ces dialogues lui déplaisaient, car bien souvent une querelle en était la conclusion. Le grand-père se laissait aller à de longues dissertations sur sa fin prochaine. Au début, Lanka lui prêtait une oreille attentive et s'attendrissait sur la situation nouvelle qui l'attendait, se mettait à larmoyer. Mais peu à peu, cet entretien le lassait. Une réaction inéluctable se produisait. Il n'écoutait plus le grand-père et demeurait plongé dans ses pensées. Lorsque l'aïeul s'en apercevait, il s'emportait et déclarait à Lanka « Niais, tu ne me sais pas gré des tracas que je me fais pour toi !» Il reprochait même à Lanka de souhaiter sa propre disparition. « Que dis-tu ? Petit sot, tu n'es pas capable de comprendre la vie. Quel âge as-tu ? 11 ans, à peine. Tu es chétif, inapte au travail. Où iras-tu ? Espères-tu que quelqu'un te viendra en aide ? Sûrement, si tu possédais de l'argent, tu trouverais quelqu'un pour le dépenser avec toi. Mais mendier n'est point une chose plaisante, même pour un vieillard comme moi. Il faut s'incliner, supplier chaque passant... On t'insulte, parfois on te frappe, on te chasse. Penses-tu que l'on estime que le mendiant est un homme ? Jamais. J'en sais quelque chose, depuis 10 années que je vagabonde de tous côtés. Chaque morceau de pain qu'on te donne, on l'estime 1000 roubles. L'aumône qu'on te jette, doit, s'imagine-t-on, ouvrir les portes du paradis. Sais-tu pourquoi les hommes font l'aumône ? Non, par bonté, mon ami. Mais pour se mettre en paix vis-à-vis de leur conscience. Quand ils t'ont donné un croûton, ils peuvent sans honte d'eux-mêmes manger à leur aise. L'homme repu est une brute, incapable de pitié pour l'homme qui a faim, parce que les souffrances de celui-ci demeurent pour lui incompréhensibles. L'homme repu et l'homme affamé sont 2 ennemis, car toujours ils constitueront un obstacle l'un pour l'autre. Il leur est donc impossible de concevoir de la pitié ou de se comprendre mutuellement. Le mendiant, aux yeux du rassasié, n'est qu'un peu de boue sur la route. »
Le grand-père s'exaltait sous l'influence de la colère et de la tristesse. Un tremblement agitait ses lèvres et il roulait terriblement ses yeux ternes de vieillard dans les orbites rouges des paupières. Sur sa face parcheminée, des rides se creusaient plus profondément. Lanka n'aimait pas à le voir dans cet état qui lui faisait peur.
« Voilà pourquoi je te demande ce que tu feras dans la vie. Tu es un bambin malingre, et le monde est un monstre féroce. Il ne fera de toi qu'une bouchée. Voilà ce que moi je veux empêcher. Je t'aime, mon petit enfant. Je n'ai que toi, et tu n'as que moi. Ai-je le droit de mourir? Je ne puis pas partir en te laissant seul. À qui te confierai-je? Mon Dieu, pourquoi te détournes-tu de ton serviteur? L'existence m'est à charge et pourtant je ne puis mourir à cause de l'enfant. C'est mon devoir de le défendre. Depuis 7 ans qu'il est avec moi, je l'ai bercé de mes vieilles mains. Que Dieu me soit secourable. »
Le grand-père s'assit et se mit à pleurer, la tête entre ses genoux tremblant. Des sanglots convulsifs montaient de sa poitrine oppressée et secouaient ses épaules. Le fleuve, au courant rapide, fuyait vers l'horizon et sautait avec bruit contre la berge. On eût dit qu'il voulait, de sa voix grave, étouffer les pleurs du vieillard. Le soleil, dans le ciel sans nuages, flamboyait, jetant une gaieté rieuse, une tiédeur paisible et douce qui endormait la rumeur des flots agités.
« Ah, ça suffit! Ne gêne pas davantage, grand-père !» dit rudement Lanka.
Il s'approcha du vieillard, et, l'air boudeur et mécontent, il ajouta
« Tout cela, nous l'avons rebâché. Je ne serai pas perdu. Je me placerai dans un restaurant quelconque. »«
On te battra !» gémit le grand-père en larmoyant.
« C'est probable, mais il y a des chances pour que l'on ne m'assomme pas !»
s'écria violemment Lanka.
« Et du moment qu'on ne me tuera pas, alors ?»
« Quoi? Alors je ferai mon chemin, je saurai bien me sortir d'embarras. »
Il se tut brusquement, réfléchit un instant, puis reprit à voix basse.
« Si c'est nécessaire, j'entrerai dans un couvent. »«
Si tu peux y entrer !»
soupira le grand-père que cette pensée ranima. Une nouvelle quinte de toux suffocante le secoua tout entier. Un cri. Un bruit de roues grinçantes résonnèrent au-dessus de leur tête. Une voix puissante déchira l'air.
« Le radeau ! Le radeau »
appelait-elle. Le vieillard et l'enfant sursautèrent, ils se mirent debout rapidement et ramassèrent leurs sacs et leurs bâtons. Une charrette à 2 roues s'avançait avec un bruit aigu en s'enfonçant dans le sable. Un cosaque y était, debout, rejetant en arrière sa tête coiffée d'un bonnet à poils qu'il portait sur l'oreille. Il se disposait à renouveler son appel et aspirer l'air, la bouche grande ouverte, la poitrine largement gonflée. Ses dents blanches brillaient dans le cadre de sa barbe noire et soyeuse, et le sang injectait ses yeux démesurément ouverts par l'effort. Sa chemise qui bâillait, son manteau ample jeté négligemment sur ses épaules, laissait apercevoir un corps couvert de poils et brûlé par le soleil. Une impression de santé, de force et de puissance se dégageait de toute sa personne, énergique comme un cheval de trait, solide comme les roues cerclées de fer de sa charrette.
« Ohé ! Ohé ! »
cria-t-il. Le grand-père et le petit-fils retirèrent leurs bonnets et s'inclinèrent très bas.
« Bonjour ! »
leur cria le nouveau venu d'une voix formidable. Il interrogea des yeux la rive opposée, et ayant vu le radeau noir quitter lentement et gauchement les roseaux, il se tourna vers les vagabonds.
« Vous venez de la Russie ?»«
Oui, bienfaiteur de la Russie, »
répondit Arkhip avec un salut.
« On y souffre de la famine, hein ?»
Il sauta hors de la voiture et se mit à rattacher un des traits de son attelage.
Les blattes elles-mêmes y crèvent de faim.
Les blattes? Il n'y a donc plus de miettes? Tout est bouffé. Vous êtes bons pour manger, vous autres, mais pour travailler, c'est une autre histoire.
car la famine n'existe pas pour le travailleur acharné.
Ah, bienfaiteur, chez nous, la terre est la cause véritable de notre misère. Elle s'entête à ne rien produire. On lui a déjà tant pris.
Le Cosaque branla la tête. La terre ? La terre doit produire sans cesse. C'est dans ce but qu'elle a été donnée aux hommes. Ce qui est mauvais chez nous, ce n'est pas la terre, mais les mains. Quand les mains sont expertes, elles feraient produire quelque chose aux rochers eux-mêmes. As-tu quelquefois été sur l'autre côté de la mer Noire ? Dans ce pays-là, grand-père, on laboure le roc.
Le radeau approchait. Deux Cosaques robustes, à la face rubiconde, s'arc-boutaient tranquillement de leurs pieds larges sur le plancher du bac. Ils touchèrent la rive violemment, titubèrent, jetèrent la mare, se regardèrent et commencèrent par respirer.
« Il fait chaud !» dit le propriétaire de la voiture.
Il porta la main à son bonnet et fit avancer son attelage sur le radeau.
« Hé !» répondit un des nautonniers.
Il mit ses mains dans les poches profondes de son pantalon, s'approcha de la charrette, l'examina, tout en respirant à plein poumon. L'autre, assis sur le plancher, gémit et se mit en devoir de retirer sa botte. Le grand-père et l'Anka prirent place sur le radeau, s'appuyèrent contre le rebord et regardèrent les Cosaques.
« Partons !» ordonna le propriétaire de la charrette. « Est-ce que tu as quelque chose à boire ?»
interrogea l'homme qui examinait l'attelage.
Celui qui s'escrimait après sa botte parvint enfin à la retirer et, fermant à demi les yeux, regarda avec une attention soutenue l'intérieur de la tige.
« Non, je n'ai rien, mais pourquoi me demander cela ? N'y a-t-il pas assez d'eau pour toi dans le couban ?»«
De l'eau, ce n'est pas de l'eau que je te demande. »«
Ah, tu voudrais de l'eau de vie ? Je n'en ai pas. »
« Pourquoi n'en as-tu pas ?»
reprit tristement le quémandeur, les yeux fixés sur le plancher du radeau.
« Partons !»
Le Cosaque entreprit de remettre sa botte. L'autre, ayant craché dans ses mains, alla sur la corde. Le propriétaire de la charrette lui vint en aide. Le bac démarra.
« Et dis donc, toi, le grand-père, tu ne pourrais pas nous aider ?»
dit à Arkhip le passeur qui voulait de l'eau de vie.
« Mais je n'en ai pas la force !» répliqua Arkhip en secouant la tête d'un air lamentable. « Ce n'est pas la peine de les aider, ils s'en tireront bien tout seuls !»
dit le Cosaque qui avait eu des démêlés avec sa botte.
Et pour convaincre le grand-père de la véracité de cette affirmation, il s'allongea sur le plancher du radeau.
Son camarade lui lança une bordée d'injures. Puis, devant le mutisme de l'autre, il se mit à trépigner.
« Regarde, Lanka, combien ces hommes sont gras et rassasiés de tout. Ce pays est un paradis pour l'homme qui vit de la terre. »
murmurait Arkhip penché sur Lanka. Celui-ci regardait par-dessus le bord courir l'eau. Sous l'action incessante du courant qui le heurtait avec un bruit étouffé, le radeau dérivait, oscillait et avançait avec beaucoup de peine.
« Quel pourceau !» répétait tout bas le grand-père. « Il prétend que ce sont les mains qui sont mauvaises, non pas la terre. Mais lui-même n'a jamais su ce que c'était que le travail. Ah, pourquoi Dieu accorde-t-il tant aux uns et si peu aux autres ?»
Il se tut un instant, comme dans l'attente d'une réponse de Lanka. Puis il ajouta lui-même
« Pour éprouver l'âme !» L'âme révoltée marchera vers la mort sans connaître, durant la vie, nul plaisir et nulle tranquillité.
Lanka, qui fixait toujours le flot, sentait la tête lui tourner. Ses yeux, lassés de cette fuite rapide du courant, se fermaient comme si ses paupières se fussent collées l'une à l'autre. Les paroles que lui murmurait le grand-père d'une voix assourdie, le grincement du câble et le clapotis de l'eau sautante, augmentait sans cesse en lui un engourdissement. À demi assoupi par le sommeil, il voulut s'allonger contre le rebord du radeau. Mais tout d'un coup, il ressentit un choc qui lui fit perdre l'équilibre et il tomba. Il ouvrit les yeux tout grands et jeta un regard autour de lui. Les Cosaques s'esclaffaient et amarraient le bac à la berge, contre une bûche brûlée.
« Tu as dormi ?
Tu es si faible. Monte dans la charrette, je te porterai jusqu'au village. Monte aussi, grand-père, à côté de moi. »
Le grand-père, d'une voix chevrotante et nasillarde, remercia le cosaque et grimpa dans la voiture en gémissant. Lanka, à son tour, l'escalada, puis ils partirent à travers un nuage de poussière fine et noire qui provoquait chez le grand-père une toux ininterrompue. Ce cosaque commença une chanson étrange. Il coupait les notes en deux et les terminait en sifflant. D'autres fois, il entonnait un air par un récitatif, puis, s'interrompant brusquement, reprenait autre chose d'une voix de fossé suraiguë. Il dévidait des sons comme on dévide un écheveau. Lorsqu'il trouvait un nœud, il le rompait brutalement. Il y avait une harmonie extraordinaire entre cette chanson et la steppe immense, monotone, que coupaient de ci, de là, des mirages flottant dans l'air. Les roues grinçaient plaintivement, des tourbillons de poussière voltigeaient. Le grand-père, hochant la tête, toussait sans répit. Lanka songeait que l'on serait bientôt au village cosaque et qu'il allait falloir nasiller sous les fenêtres la sempiternelle chanson « Dieu Jésus-Christ ». Les gosses du hameau allaient encore le taquiner et les femmes l'importunaient de questions sur la Russie et sur un tas de choses. Tandis qu'il répondrait, l'atout du grand-père se ferait plus opiniâtre. Il courberait la tête si bas que Lanka lui-même en était quelquefois effrayé, et sa voix se ferait alors plus désespérée encore que de coutume, coupée de sanglots incessants, cependant qu'il narrerait des aventures tout à fait invraisemblables. Ne raconte-t-il pas notamment qu'en Russie, la famine ronge chaque individu au point que les hommes tombent morts dans les rues et y restent des journées entières, personne ne s'occupant d'enterrer les trépassés. En réalité, chose pareille ne s'était jamais produite. Cependant, il faut bien compter ces balivernes pour que l'aumône se fasse plus facilement. Mais ici, d'ailleurs, que pourra-t-on faire de l'aumône reçue en nature? En d'autres lieux, on trouve à la vendre pour 40 à 50 copecs le poud. Dans cette région, personne ne veut l'acheter, et bien souvent, il faut jeter des morceaux excellents. Pourquoi donc le grand-père se hâte-t-il ainsi d'aller d'un village à un autre? Il pourrait bien séjourner une semaine dans chaque bourg. Mais non, il arrive, fait sa tournée, recueille le plus qu'il peut, et se sauve plus loin, comme s'il était un voleur traqué. Un jour, Lanka l'avait questionné à ce propos. Le vieillard lui avait répondu avec tristesse et un peu de mécontentement « Tu es un nigaud, tais-toi, tu es incapable d'apprécier le souci que je me fais pour toi. Tu ne peux pas savoir ce que je veux. C'est ton bonheur que je cherche. Je parviendrai peut-être à t'éviter la vie désastreuse des paysans. Ainsi donc, tais-toi. » « Vous allez mendier ?» interrogea le cosaque en considérant attentivement leur mine désolée. « Évidemment, bienfaiteur, » soupira le grand-père Arkhip. « Mets-toi debout, grand-père. Je vais te montrer ma demeure. Vous pourrez venir y coucher. » Le vieillard fit un effort pour se redresser, mais il retomba. Il se cogna le flanc contre le bord de la charrette et poussa un cri douloureux. « Reste assis, vieux. » reprit le cosaque en s'apitoyant. « Si jamais tu as besoin d'un abri, demande Tcherny, André Tcherny, c'est mon nom. Maintenant, descends et au revoir. » Le grand-père et Lanka étaient devant un groupe de peupliers. À travers les branches, on apercevait les toits des clôtures en planches. De tous côtés, de droite et de gauche, des allées de peupliers. Une fine poussière grisâtre saupoudraient leurs feuilles vertes, et la chaleur avait fait éclater l'écorce épaisse de leurs troncs forts et droits. Une ruelle étroite, bordée de palissades, s'ouvrait devant les vagabonds. C'était par là que s'en était allé le cosaque qui les avait amenés. Ils se mirent en marche vers cette ruelle, avec l'allure épuisée de gens qui auraient usé leur vie à courir les routes. « Allons, comment ferons-nous, Lanka ?» interrogea le grand-père.
Irons-nous ensemble ou chacun de notre côté ?» Et sans attendre de réponse, il reprit « Il serait préférable d'aller ensemble. On te donne si peu. Tu ne t'y entends pas, Amandier. »
Et qu'est-ce qu'on fera du trop si on nous donne beaucoup ?
On ne peut cependant pas tout manger, répliqua Lanka en regardant autour de lui d'un air grognon.
Ce que nous en ferons, petit phénomène, nous trouverons peut-être quelqu'un pour nous acheter ses réserves. Il nous donnera de l'argent. L'argent est une chose bien précieuse. Avec de l'argent, tu te tireras d'affaire lorsque je serai mort.
Avec un bon sourire, le grand-père passa la main sur la tête de l'enfant.
« Sais-tu combien j'ai amassé pendant notre dernier voyage par eau ?»«
Combien ?» demanda Lanka d'un ton indifférent.
« 11 roubles et demi. N'est-ce pas beau ?»
Mais ni le chiffre ni la joie du grand-père ne déridèrent Lanka.
« Enfant, petit enfant !» soupira le vieillard. « Alors nous allons chacun de notre côté ?»«
Chacun de notre côté. »«
Soit, nous nous retrouverons à l'église. » »«
C'est entendu. » Le grand-père tourna à gauche de la ruelle, Lanka s'en fut tout droit. Il n'avait pas fait 10 pas qu'il entendit une voix cassée qui chevrotait.
« Bienfaiteur, petit père nourricier !»
Cette lamentation semblait produite par le frottement de la main sur une harpe désaccordée, en allant de la corde la plus grosse à la plus fine. Lanka tressaillit et se hâta davantage. Ces plaintes de son grand-père éveillaient toujours en l'âme de l'enfant un sentiment désagréable qui l'attristait. Lorsque le vieillard, pour une aumône qu'on lui refusait, éclatait en sanglots, Lanka sentait tout courage l'abandonner. La voix de l'aïeul lui parvint encore en notes désolées et chevrotantes dans l'éloignement du village, à travers l'air assoupi et lourd. Le calme était si complet qu'on eût dit la nuit. Lanka se mit à marcher le long des buissons qui bordaient la route, puis s'assit à l'ombre de cerisiers dont les branches pendaient jusqu'à terre. Dans le voisinage, une abeille bourdonnait. Il retira de ses épaules sa besace et s'y appuya la tête. Un instant, il contempla le ciel par les interstices des feuilles qui abritaient son visage. Puis il s'endormit d'un sommeil profond, protégé des regards des passants par les herbes hautes et épaisses et par l'ombre que projetaient les grilles des clôtures. Il fut réveillé par un bruit singulier qui troublait l'air plus frais à l'approche du crépuscule. Quelqu'un pleurait à quelque distance de lui. C'étaient des sanglots d'enfant, désolés et contenus. Les gémissements s'apaisaient, puis reprenaient plus violents et de plus en plus rapprochés. Il leva la tête et inspecta la route à travers le feuillage. Il vit une jolie fillette d'environ 7 ans, proprement habillée, à la face rougie et boursouflée par les larmes. De temps en temps, elle les essuyait du bas de sa robe d'indienne blanche. Elle allait lentement, les pieds traînant, soulevant une poussière dense et ne sachant pas certainement ni où elle allait ainsi, ni même pourquoi elle marchait. Dans ses grands yeux noirs humides, on lisait une sorte de tristesse navrée. Ses oreilles, petites, délicates et rosées, sortaient coquettement de la masse de ses cheveux bruns, dont les boucles mal contenues retombaient sur son front, sur ses joues et sur ses épaules. En dépit de ses larmes, Lanka la trouva amusante. Amusante avec un air de gaieté. Évidemment, elle devait être mutine. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda-t-il en se redressant quand elle fut tout près de lui. Elle sursauta, s'arrêta, cessa de pleurer tout haut, mais continua à sangloter silencieusement. Elle le fixa quelques instants, puis à nouveau ses lèvres s'agitèrent, ses traits se contractèrent comiquement, un sanglot souleva sa poitrine, et elle se remit en marche en pleurant bruyamment. Lanka eut l'impression que quelque chose se serrait en lui et résolut de la suivre.
« Ne pleure donc pas !» reprit-il avant même de l'avoir rattrapée. « Tu n'as pas honte, une grande fille comme toi ?»
Quand il fut à côté d'elle, il la dévisagea, haussa les épaules d'un air important, puis redemanda. « Eh bien, qu'as-tu donc à t'en larmoyer ?»«
Ah oui, » dit-elle d'un ton traînant, « si tu avais du chagrin comme moi !»
Elle tomba assise sur la route, dans la poussière, se cacha la figure dans les mains et se mit à pleurer désespérément. Lanka eut un geste de mépris.
« Ah !» dit-il, « tu n'es qu'une femme, rien qu'une femme, voilà tout !»
Mais cette déclaration n'apportait aucun remède aux choses, et Lanka regardait tomber les larmes une à une à travers les doigts fuselés et roses de la petite fille. Cela l'attristait lui-même et lui communiquait une furieuse envie de pleurer à son tour. Il se pencha vers elle et de la main il caressa doucement ses cheveux. Puis aussitôt, comme effrayé de son audace, il retira la main. Cependant, elle continuait à pleurer sans mot dire.
« Écoute, » reprit Lanka, envahi d'un désir ardent de lui venir en aide. « Écoute, dis-moi pourquoi tu pleures. Est-ce qu'on t'a battu ?
Ah, bah, cela passera.
As-tu quelque chose autre ? Dis-le-moi.
Je t'en prie, cela te soulagera, tu verras.
Peut-être as-tu perdu quelque chose ? En ce cas, nous pourrions le chercher tous les deux. »
Sans retirer ses mains de sa figure, la petite fille secoua la tête d'un air navré et lui répondit en sanglotant.
« C'est un fichu, je l'ai perdu. Mon père me l'avait rapporté de la foire. Un fichu bleu avec des fleurs. Je l'ai mis et je l'ai perdu. »
Elle se remit à pleurer plus fort, entrecoupant de temps en temps ses sanglots d'exclamations étouffées.
« Oh !»
Lanka, comprenant qu'il ne pouvait lui être d'aucun secours, s'écarta un peu d'elle, avec timidité, et, pensif et triste, s'absorba dans la contemplation du ciel. Il était mal à l'aise et avait pitié de l'enfant.
« Ne pleure pas, » dit-il tout bas.
« On va le retrouver, peut-être. »
Il vit qu'elle ne prêtait plus aucune attention à ses paroles consolatrices. Il s'écarta d'elle, un peu en songeant que, sans doute, à son retour au logis, elle serait battue pour cette mésaventure. Il évoqua la scène dans son esprit. Le père, cosaque noir et puissant, la frappait, tandis qu'elle-même, tremblante et pleurant à chaudes larmes, se roulait à ses pieds, pleine de terreur et de douleur. Lanka s'éloigna, triste et mécontent de se sentir impuissant à lui venir en aide. Il fit quelques pas, se retourna, et s'appuyant à la haie vis-à-vis d'elle, s'efforça de trouver des phrases affectueuses et douces pour lui parler. Mais aucune expression de ce genre ne lui venait à l'idée.
« Au moins, fillette, lève-toi de la route. Je t'en prie, cesse de pleurer. Rentre chez toi et raconte comment cela t'est arrivé. Dis tout bonnement que tu as perdu ton fichu. As-tu déjà la sensation des coups qu'on va te donner ?»
Sa voix s'était faite d'abord très douce, pleine d'apitoiement. À la phrase ironique qui terminait son discours, il vit avec plaisir que la fillette se levait.
« À la bonne heure !» poursuivit-il, souriant et content.
« Rentre chez toi. Veux-tu que j'aille avec toi et que je raconte la chose à tes parents ? Je saurai te défendre, ne crains rien. »
Lanka, fièrement, haussa les épaules et jeta un regard triomphant autour de lui.
« Je ne veux pas !»
murmura-t-elle. Tout en pleurant, elle secoua lentement la poussière qui souillait sa robe.
« Si tu le désires, j'irai !»
dit Lanka d'un ton mâle en campant son bonnet sur l'oreille. Il s'était mis debout devant elle, les jambes écartées. Ses haillons semblaient frissonner autour de lui. Il frappa la terre de son bâton et fixa obstinément la fillette. Dans ses grands yeux tristes, brillaient son audace et sa fierté. Méfiante, la petite fille le regarda, tandis qu'elle se débarbouillait la frimousse avec ses larmes, puis elle ajouta avec un nouveau soupir
« Il ne faut pas que tu viennes. Ma mère n'aime pas les mendiants. »
Puis elle partit et se retourna deux fois encore pour le regarder. Lanka sentit naître en lui le découragement. Lentement, par degrés insensibles, son allure ferme et audacieuse changea. Il se courba de nouveau, reprit sa mine lasse, jeta sur ses épaules la besace qu'il tenait encore à la main et cria à la fillette, prête à disparaître au tournant de la ruelle,
« Adieu !»
Une dernière fois, elle se retourna, puis disparut. Autour de Lanka, tout lui parut plus triste et plus noir. Le soir tombait, une chaleur lourde annonçant un orage prochain emplissait l'atmosphère. Le soleil très bas sur l'horizon colorait d'un léger reflet de pourpre la cime des peupliers. L'ombre crépusculaire montait à l'assaut des branches, et les arbres, si grands déjà dans leur rigidité, paraissaient plus grands et plus imposants encore. Et Lanka crut comprendre qu'une pensée était en eux, qu'ils attendaient la venue de quelque chose d'effroyable. Le soleil, dont les derniers rayons passaient au-dessus de leur tête, s'assombrissait à l'horizon, nuageux. Il semblait s'enfoncer au plus profond de la terre. Dans le lointain, on entendait des voix. Ailleurs, d'un autre côté, quelqu'un chantait, et les sons timides et tremblants semblaient, comme l'atmosphère, écrasés par la chaleur suffocante. Une tristesse et une peur imprécise s'étaient emparées de Lanka. Il sentit en lui le désir soudain de rejoindre son grand-père et se mit à marcher très vite dans la ruelle. Il n'avait aucune envie de mendier. Il allait, sentant sauter son cœur très fort. Cela le fatiguait de marcher et de penser à la fois. Mais le souvenir de la petite fille obsédait son esprit. Qu'était-elle devenue ? Était-elle rentrée chez elle ? Était-elle riche ? Si sa famille était aisée, elle serait certainement battue, car tous les riches sont avares. Mais si ses parents étaient pauvres, peut-être ne la frapperait-il pas ? Dans les logis pauvres, les enfants sont plus aimés, car ils sont les gagne-pains de l'avenir. Telles étaient les pensées qui se succédaient en lui, faisant grandir sans cesse l'impression de tristesse douloureuse et angoissée qui l'écrasait, comme une nuit plus lourde et plus épaisse d'instant en instant. Le crépuscule devenait plus accusé et l'air plus surchauffé. Lanka croisa des Cosaques accompagnés de leurs femmes et de leurs filles qui passaient sans même le regarder, accoutumés qu'ils étaient sans doute à voir des crèves la faim venues de Russie. Il eut un regard torve pour ces gens à la mine florissante et repue, et se hâta vers l'église, dont on voyait briller le dôme à travers les arbres verdoyants. Il écouta le bruit des troupeaux rentrant aux étables. Enfin apparut l'église, petite et large, surmontée de 5 coupoles azurées. Entourée de peupliers, dont les cimes dépassaient les croix illuminées par les suprêmes rayons du soleil à son déclin, flamboyant à travers le feuillage dans un éclat d'or rose. Et voici venir vers le parvis le grand-père, pliant le dos sous le poids de sa besace. Couvrant ses yeux de sa main, il cherche autour de lui. Derrière le grand-père s'avance un Cosaque à l'allure lourde. Son bonnet est enfoncé sur son front, il tient à la main un bâton. « Ta besace est vide, n'est-ce pas ?» interroge le grand-père, s'avançant vers Lanka qui le regardait venir, appuyé à la grille de l'église. « Mais moi, regarde ce que j'apporte !» Avec un gémissement, il se déchargea de son sac de toile lourd de provisions et le jeta à terre. « On donne facilement dans ce pays, on est très charitable. Mais toi, quel air bizarre as-tu ?» « Je souffre de la tête, » répondit faiblement Lanka. Il s'allongea sur le sol à côté de son grand-père, qui, adossé à un tas de briques, l'air joyeux et avide, caressait de la main les aumônes reçues. « Es-tu là ? Nous irons bientôt nous coucher. Quel est le nom du Cosaque qui nous a amenés ici ? André Tcherny. Ah, c'est ça, Tcherny. Eh bien, nous nous informerons où est la demeure d'André Tcherny. Voilà un homme qui vient par ici. Oui, les gens y sont bons et fortunés. Tous mangent du pain de froment. Bonjour, brave homme. » Le Cosaque vint jusqu'à eux et lentement dit en réponse au salut du grand-père « Bonjour également à vous. » Ensuite, il s'arc-bouta solidement sur ses jambes, regarda fixement les mendiants de ses grands yeux vagues et silencieusement se gratta la nuque. Lanka l'observait avec étonnement. Clignant des yeux, le grand-père attendait qu'il parlât. Le cosaque continuait à garder le silence. Enfin, il tira la langue à demi et s'appliqua à attraper avec elle l'extrémité de sa moustache. Cette opération ayant réussi, il introduisit la moustache dans sa bouche, la mâchonna, la recracha, et, rompant le silence qui commençait à devenir inquiétant, il déclara sévèrement « Allons, il faut venir avec moi au poste.
« Pourquoi ?»
demanda le grand-père en sursautant. Un frisson traversa le cœur de Lanka.
« Il le faut, j'ai reçu l'ordre. Suivez-moi. »
Il fit volte-face et se mit en marche. Mais ayant jeté un regard derrière lui et constatant que les mendiants ne bougeaient pas, il leur cria d'un ton rogue
« Eh bien, qu'est-ce que vous attendez ?»
Le grand-père et Lanka se mirent rapidement debout et lui emboîtèrent le pas. L'enfant fixait obstinément le vieillard. Il s'aperçut qu'il claquait des dents et qu'un tremblement agitait sa tête. L'aïeul fouillait dans sa poitrine tout en regardant craintivement autour de lui. Lanka comprit que son grand-père avait un poids sur la conscience, ainsi que le fait s'était déjà produit quelque temps auparavant à Taman. Un frisson douloureux le parcourut tout entier au souvenir de l'aventure de Taman. Dans ce village, le grand-père avait volé du linge dans une cour, et il avait été surpris. On l'avait raillé, insulté, frappé même, puis expulsé du bourg, bien que la nuit fût proche. Et la nuit était noire. Ils avaient dû coucher tous deux dans le sable d'une plage, sur un promontoire, et toute la nuit la mer avait hurlé effroyablement. Le sable, que les lames labouraient, gémissait. Jusqu'à l'aube, le vieillard avait larmoyé sur un ton pleurard, implorant Dieu de leur pardonner et se traitant de voleur.
« Lanka !»
Lanka sursauta comme si on l'eût frappé dans le dos et regarda le grand-père. La face décharnée de celui-ci s'était faite plus crispée, plus terne. Il tremblait. Devant eux, à 5 pas environ, le cosaque s'en allait, fumant sa pipe et faisant tournoyer sa canne.
« Tiens, prends, jette cela dans la haie, mais regarde l'endroit où tu le jetteras, afin que nous puissions le reprendre. Après !»
chuchota l'aïeul à peine distinctement. Il s'approcha de son petit-fils et lui insinua dans la main un linge roulé en boule. Lanka s'écarta, frémissant de terreur. Un froid subit envahit tout son corps. Il s'avança vers le bord de la route que délimitait une haie touffue. Tout en fixant attentivement la silhouette trapue du cosaque qui le précédait, il allongea la main et jeta un regard rapide sur l'objet qu'on lui donnait, puis jeta le linge dans la haie. Après quoi, il fut frappé de confusion. Dans la chute, le chiffon s'était déroulé, et Lanka avait pu apercevoir un fichu à fleurs, qui évoqua spontanément en lui le souvenir de la fillette aux larmes intarissables. Elle lui apparut en personne et éclipsa, comme par enchantement, le cosaque, le grand-père et tout ce qui l'entourait. À nouveau, Lanka eut dans les oreilles le bruit des sanglots de l'enfant. Il lui sembla qu'à ses pieds tombaient à terre des larmes transparentes qui dérobaient le monde entier à sa vue. Un froid de glace lui serra le cœur. Ce fut ainsi qu'il pénétra derrière le grand-père dans le poste. Toujours abattu, il entendit un bruit qu'il ne put ou ne voulut comprendre, et ce fut à travers un nuage qu'il vit que l'on secouait sur une table tout ce que renfermait la besace du vieillard. Les morceaux de pain tombaient et rebondissaient doucement et sourdement. Il y eut des têtes nombreuses, coiffées de hauts bonnets, qui se penchèrent sur la table. Parfois elles paraissaient graves et mornes, parfois elles se redressaient dans le brouillard, et irrité. Soudain, le grand-père, saisi par la poigne de deux grands diables, se mit à tourner sur lui-même comme une toupie, en protestant d'une voix étouffée.
« Vous avez tort d'agir ainsi, gens orthodoxes. Je prends Dieu à témoin que je suis innocent »
cria-t-il d'un ton perçant. Lanka s'abattit sur le parquet en sanglotant. On se dirigea vers lui, On le releva, on l'assit sur un banc et on fouilla les loques dont il était vêtu. Subitement, tout cessa. Les sanglots qui étouffaient l'Anka moururent dans sa gorge. Les lamentations du grand-père s'arrêtèrent et le grondement des voix furieuses se tut comme par miracle.
« Elle a menti, Danilovna, la damnée femelle !» cria quelqu'un.
Et cette voix grave, en colère, frappa l'Anka. « À moins peut-être qu'il ne l'ait cachée quelque part !» s'exclamèrent d'autres voix plus violemment encore. Et de nouveau, des clameurs furieuses s'entrecroisèrent dans l'air. L'Anka eut l'impression que tous ces bruits étaient autant de coups qu'on lui assénait sur la tête, qu'il se trouvait mal et s'évanouissait. Soudain, il lui sembla qu'il tombait dans une fosse noire, immense, béant devant lui comme un gouffre dont il ne voyait pas le fond. Quand il rouvrit les yeux, il sentit que sa tête était appuyée sur les genoux du grand-père, dont il vit, penché sur lui, la figure plus désolée et plus sillonnée de rides que jamais. Les yeux las et craintifs du vieillard palpitaient, et des larmes opaques s'en échappaient, qui tombait sur le front de l'enfant, roulait sur ses joues et dans son cou en le chatouillant. « Cela va-t-il mieux, mon petit haut? Partons d'ici, sauvons-nous, ils nous ont relâchés, les damnés !» L'Anka souleva sa tête de dessus les genoux de son grand-père et s'assit à ses côtés. Sa tête était lourde, comme si elle eût été remplie de quelque chose, et il avait l'impression qu'elle allait tomber de ses épaules. Il la soutint de ses mains et se mit à se balancer avec des gémissements plaintifs. « Tu as bien mal à la tête, mon enfant chéri. Ces fauves nous ont-ils assez torturés? Un poignard a été perdu. Une petite fille a égaré son fichu. Aussitôt, la faute est à nous. Nous sommes des mendiants. En conséquence, nous sommes des voleurs. Ah, mon Dieu, de quel crime nous punis-tu ? » Les cris ahuris du grand-père écorchaient les oreilles de l'Anka. En lui-même s'allumait une flamme si brûlante qu'il dut s'écarter quelque peu du vieillard. Il fit un pas en arrière et dégagea le vieil Arkhip. Entre ses rides, il crut voir les infâmes petits serpents du mensonge qui le fascinaient. Tout frissonnant, il regarda autour de lui. Ils étaient installés à la sortie du bourg, sous l'ombrage touffu d'un peuplier aux branches tordues. La nuit était déjà venue, la lune se levait et pendait sur l'immensité de la steppe ses reflets blafards et argentés, semblant la rendre plus resserrée que dans la journée, plus resserrée et plus mélancolique. À l'horizon de la steppe, là où elle se confondait avec le ciel, montaient des nuages violets qui s'élevaient vers la voûte du firmament, dérobant la lune et projetant des ombres noires sur la campagne. Ces masses sombres se soudaient les unes aux autres, s'allongeaient sur le sol, y rampaient lentement, puis soudain se dissipaient. Des voix se faisaient entendre dans le village, où, de ci, de là, des lumières s'allumaient, qui paraissaient échanger des clins d'œil avec les astres du ciel, brillant d'un reflet pur et doré. « Allons, mon chéri, il faut nous en aller, » dit le grand-père. « Restons encore un peu, » demanda l'Anka. Il aimait la steppe. Durant leur marche de la journée, il se plaisait à laisser ses regards errer sur l'horizon, à l'endroit où la voûte du ciel s'appuyait sur la poitrine large de la plaine. Là, il croyait apercevoir des cités gigantesques, pleines de merveilles, peuplées d'êtres si bons, si généreux, que l'on n'avait point besoin de leur demander du pain. Ils en distribuaient d'eux-mêmes à quiconque en désirait. Et lorsque la steppe, sans cesse élargie, déroulait à ses yeux son immensité, lorsque soudain apparaissait un hameau dont les maisons et les habitants étaient exactement semblables aux maisons et aux habitants déjà rencontrés ailleurs, une tristesse l'envahissait, et il éprouvait comme une offense de cette désillusion. Mais le lendemain, à nouveau, se déroulait au loin la steppe infinie et sans obstacle, et de nouveau renaissait son rêve que là-bas, loin, très loin, il existait d'autres villes, d'autres hommes, meilleurs que ceux-ci. Pensivement, il fixait l'horizon d'où s'élevait la horde des nuages, ainsi que la fumée qu'eussent dégagé les milliers de cheminées de la cité idéale qu'il aurait tant voulu rencontrer. La toux étouffée du grand-père interrompit son rêve. Lanka le regarda fixement. Le vieillard respirait avec difficulté. Sa figure était baignée de larmes. La lune l'éclairait. Des ombres étranges tombaient sur ses guenilles, son bonnet, ses sourcils, sa barbe, donnant à cette face, dont la bouche se contractait, dont les yeux étaient démesurément ouverts et emplis d'une extase intérieure, une expression d'horreur et de détresse. À sa vue, Lanka fut saisi d'un sentiment singulier et ne put s'empêcher de s'écarter encore un peu plus de son grand-père. « Soit, restons, restons, » dit celui-ci. Cependant qu'avec un sourire hébété, il cherchait quelque chose dans sa poitrine. Lanka se détourna et de nouveau reporta ses yeux vers l'horizon lointain. « Lanka, mon petit Lanka, regarde !» s'exclama tout d'un coup le grand-père d'une voix triomphante. Et malgré la toux qui le déchirait, il présentait à son petit-fils un objet long et brillant. « Il est en argent ! En argent ! Il vaut bien 50 roubles » murmura-t-il. Un tremblement cupide et douloureux agitait ses mains et ses lèvres et crispait son visage. Lanka, avec un frisson, repoussa la main tendue vers lui. « Cache vite cela ! Oh, grand-père, cache-le » supplia-t-il en regardant autour de lui. « Mais qu'as-tu, petit nigaud ? As-tu peur, mon enfant chéri ?» J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre. Je l'ai vu qui était suspendu. Je l'ai pris, je l'ai caché contre ma poitrine, puis je l'ai jeté dans le buisson. En quittant le village, j'ai faim de perdre mon bonnet. Je me suis penché et l'ai ramassé. Quels imbéciles, ces gens-là! Le fichu aussi, je l'ai repris. Le voilà !» Et de ses mains qui tremblaient, le grand-père sortit de dessous ses loques le fichu. Il le secoua pour le montrer à Lanka. Il semble à l'enfant qu'un rideau se lève devant ses yeux, et dans son imagination, il voit se dérouler la scène suivante. Le grand-père et lui s'avancent, pressant le pas, à travers les rues du hameau, s'efforçant de n'être point vu des passants. Ils marchent emplis de crainte, et Lanka a l'impression que tout le monde est en droit de les battre, de les injurier, de leur cracher à la face. Un nuage léger enveloppe les haies, les maisons, les arbres qui semblent frémir sous les rafales du vent. Des voix déchirent l'air. Ce calvaire douloureux est interminable. Lanka n'aperçoit ni la sortie du bourg, ni les plaines qui l'entourent. Ils sont cernés dans la masse compacte des maisons chancelantes, qui par instant s'avancent vers eux, comme pour les écraser, et par instant reculent en ricanant, comme si les fenêtres étaient des trous noirs ouverts dans leur figure. Soudain, de l'une de ces fenêtres, une voix claire s'écrie « Voleur ! Voleur ! Voleur ! Petit voleur !» Lanka jette un regard furtif dans la direction de cette fenêtre, et il aperçoit cette même fillette qu'il a vue pleurer dans la journée et qu'il aurait eu tant de plaisir à défendre. Elle comprend ce qu'il pense et lui tire la langue en dardant sur lui de ses yeux bleus un regard pénétrant et réprobateur qui le larde comme une aiguille. Cette scène se renouvelle dans l'esprit de l'enfant, puis s'évanouit un moment. Lanka regarde son grand-père avec un mauvais sourire. Le vieillard continuait à discourir, à bavarder sans relâche, ne s'interrompant que pour tousser. Il se frottait les mains, souriait joyeusement, et essuyait les grosses gouttes de sueur qui coulaient sur les rides de sa figure. Un nuage épais et déchiqueté voila la lune. Lanka ne vit plus le visage du grand-père, mais le souvenir de la fillette pleurant lui revint. Il plaça cette image à côté de celle de l'aïeul et les compara l'une à l'autre dans son esprit. Le vieillard infirme, cupide, en guenille, auprès de la fillette qu'il avait volée. La fillette pleurait à chaudes larmes, mais saine, jeune et gracieuse. Dans cette comparaison, le grand-père lui apparut comme un être dépourvu de toute utilité et d'une méchanceté noire, comparable à celle du cocher de la fable. Était-ce possible? Avait-il pu lui faire du mal? Cependant, le grand-père poursuivait inlassablement. « Si je réussissais à réunir 100 roubles, alors je mourrais tranquille. » Subitement, une révolte surgit en le cœur de Lanka. « Tais-toi! Si tu mourrais toujours de la même façon. Mais tu ne meurs pas, tu voles !» cria l'enfant. Frémissant, il se releva. « Tu es un vieux filou! Ouh !» Et Lanka agita son petit poing nerveux sous le nez du grand-père, frappé de stupeur. Puis il retomba assis, en ajoutant à demi-voix « Tu as volé un enfant. C'est du propre, cela. Tu es un vieillard et tu voles. On ne te pardonnera jamais dans l'autre monde. » Soudain, toute la steppe vibra dans un enveloppement éblouissant de lumière bleuâtre qui semblait reculer les limites de l'horizon. Les ténèbres se déchirèrent et disparurent un instant. Un coup de tonnerre éclata et roula, se prolongeant sur la steppe, faisant trembler le ciel, sur lequel les nuages couraient en une fuite éperdue, noyant la lune dans leur ombre. L'obscurité revint. Très loin, là-bas, un éclair s'alluma, silencieusement menaçant. Puis, une seconde plus tard, le tonnerre gronda de nouveau. Ensuite, ce fut le silence, un silence qui parut devoir être éternel. Lanka fit le signe de la croix. Le grand-père, immobile et muet, restait assis, semblant faire partie de l'arbre auquel il était adossé. « Grand-père !» murmura Lanka, anxieux, à l'idée d'un nouveau coup de tonnerre. « Allons au village !» Une fois encore, le ciel frémit et s'incendia d'une flamme bleue. Une formidable détonation crépita. On eût dit que des milliers de barres de fer tombaient sur la terre en s'entrechoquant. « Grand-père !» cria Lanka. Le roulement prolongé du tonnerre couvrit sa voix, qui tinta comme une clochette fêlée. « Qu'y a-t-il, mon petit-fils? As-tu peur ?» dit le grand-père sans bouger. Sa voix était assourdie, et dans ses paroles, on sentait de la douleur, de l'ironie et de la détresse. Lanka eut l'impression que c'était un étranger qui parlait. La pluie commençait à tomber en larges gouttes, produisant un bruit semblable à un avis mystérieux qu'on chuchoterait à l'oreille. Au loin, cela grandissait sourdement, comme si l'on eût frotté la terre desséchée avec une brosse gigantesque. Et tout près, chaque goutte, en s'écrasant sur le sol, produisait un son mort qui n'avait pas d'écho. Les coups de tonnerre se faisaient plus proches et les éclairs se multipliaient dans le ciel. « Je n'irai pas au village !» hurla le grand-père d'une voix étranglée de colère. « Que la pluie me noie, que la foudre m'écrase, je ne suis qu'un vieux chien et qu'un voleur. Non, certes, je n'irai pas. Vas-y seul, voilà, le village est là. Vas-y, je te défends de rester ici. Va-t'en, va, va, va !» Le grand-père criait d'une voix étouffée et rauque. « Grand-père, pardonne-moi » gémit Lanka en s'approchant de lui. « Ah, je n'irai pas, je ne veux pas te pardonner. 7 ans durant, j'ai pris soin de toi. Ai-je besoin de quelque chose, moi? Je meurs. Oui, certes, je suis à l'agonie. Et toi, tu me traites de voleur. Pour qui est-ce que je vole? Pour toi. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Voilà. Prends, prends, prends. J'ai économisé, j'ai travaillé, j'ai volé. Tout cela pour toi. Tout cela. Dieu le voit. Il le sait. Il sait que j'ai volé. Il me punira. Il ne remettra pas à un vieux chien tel que moi le péché du vol. Il m'a déjà châtié. Mon Dieu, tu m'as frappé, ah oui, durement frappé. Tu m'as tué par la main de cet enfant. Je l'ai mérité, Seigneur. Tu es équitable, Seigneur, et je vais vers ton jugement. Prends pitié de mon âme. Ah !» La voix du grand-père se changea en une sorte de hurlement suraigu qui jeta la terreur dans le cœur de Lanka. Les coups de tonnerre, ébranlant la steppe et le ciel, retentissaient en grondements précipités et se prolongeaient. On eût dit que chacun d'eux était chargé d'annoncer à la terre une importante nouvelle. Ils chevauchaient l'un sur l'autre et éclataient sans discontinuer. Dans le ciel vibrant, les éclairs sillonnaient la nuit. La plaine frémissait. Parfois, elle flambait tout entière dans une lueur bleuâtre. Parfois, elle s'engloutissait dans les ténèbres opaques et froides qui paraissaient la rétrécir. Parfois, l'horizon s'illuminait d'une traînée de feu. Il semblait que le bruit et les hurlements des éléments en furie faisaient reculer l'espace. La pluie ruisselait en gouttelettes qui prenaient des reflets d'acier à la lueur des éclairs, et elle tendait un voile devant les lumières hospitalières et clignotantes du bourg. Lanka fut saisie d'horreur, d'épouvante et d'une angoisse morne que suscitait en lui un remords à l'égard de son grand-père. Bien que les gouttes de pluie ruisselassent de sa tête trempée jusque dans ses yeux, il les tenait fixement ouverts, pris de peur à l'idée de les fermer, et il écoutait la voix du grand-père, étouffée dans ce chaos d'harmonie formidable. L'enfant comprit que l'aïeul était immobile, mais il lui semblait aussi que lui-même allait disparaître, s'engloutir quelque part, laissant le vieillard seul. Inconsciemment, il se rapprocha peu à peu de son grand-père, jusqu'à le toucher du coude. Alors, il eut un frisson, dans l'attente de quelque chose d'épouvantable. Un éclair déchira la nue, éclairant ces deux êtres serrés l'un contre l'autre, minuscules, les muscles crispés, sous les torrents d'eau qui ruisselaient sur eux du haut des arbres feuillus. Le grand-père leva les mains vers le ciel en marmottant des paroles incompréhensibles. On eût dit que la fatigue l'étouffait. Lanka le regarda en face et eut un cri d'épouvante. À la lueur blafarde de l'éclair, la figure du vieil Arkip lui avait semblé le visage d'un mort. Une expression de folie se lisait dans les yeux fixes, révulsés. « Grand-père, allons-nous-en » cria-t-il en enfouissant sa tête entre les genoux de l'aïeul. Celui-ci s'inclina vers lui, l'étreignit de ses mains décharnées et osseuses et le pressa fortement sur son cœur. Soudain, il poussa un hurlement lamentable ainsi qu'un loup pris au piège. Lanka, à cet appel désespéré, se sentit devenir fou de terreur. Il s'arracha à l'étreinte, s'élança en avant et s'enfuit comme un trait. Les éclairs l'aveuglaient. Il tomba, se releva, s'enfonçant au plus profond des ténèbres que dissipaient de temps à autre les lueurs de la foudre et qui se refermaient ensuite plus étroitement autour de l'enfant affolé. Le tonnerre rugissait, les éclairs augmentaient sans cesse de fréquence et de force. La pluie ruisselait avec un bruit glacial, monotone, désolé. La steppe semblait n'avoir jamais connu que le bruit de la pluie, le crépitement de la foudre et le grondement furieux du tonnerre. Le lendemain matin, des enfants jouant dans les alentours du village revinrent en courant donner l'alarme au bourg. Ils déclarèrent qu'ils avaient aperçu le vieux mendiant étendu sous un peuplier et que, sans doute, il avait été égorgé, car à ses côtés gisait un poignard. Mais les Cosaques, venus pour constater les faits, reconnurent que ces détails n'étaient point complètement exacts. Le vieillard respirait encore. Quand on s'approcha de lui, il fit un effort pour se mettre debout, mais ses forces le trahirent. On constata qu'il avait la langue paralysée. De ses yeux caves, il interrogeait tout le monde et cherchait parmi la foule quelqu'un ou quelque chose. Mais il ne découvrit pas ce qu'il cherchait. Et personne ne lui répondit. Il mourut le soir même de ce jour. On l'enterra sous le peuplier, à l'endroit où il avait été découvert. Comme c'était un voleur et qu'il avait trépassé sans avoir reçu les derniers sacrements de l'Église, on estima qu'il n'avait pas le droit de reposer au cimetière. On retrouva Lanka deux ou trois jours plus tard. Aux environs du hameau, un vol de corbeaux tournoyait au-dessus d'un ravin. On en chercha la cause et l'on découvrit l'enfant, étendu, les mains allongées, la face contre terre, dans la vase argileuse entraîné par la pluie au fond du fossé. On décida d'abord de l'enterrer au cimetière, en considération de ce que c'était un enfant. Puis, toute réflexion faite, on le mit à côté de son grand-père, au pied du même peuplier. On marqua l'emplacement de leur sépulture par un tertre sur lequel on édifia une croix de pierre.